Bonne fin de journée sur RVE, il est 18h.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
C'est Jean-Michel ce soir, rencontre avec.
Alors, rencontre avec ce soir Roger Motte, grand reporter à France Télévisions, notamment pour Envoyé spécial. Alors, bonsoir Roger Motte.
Bonsoir.
Alors, quel est votre parcours et comment vous débarquez un beau matin à France Télévisions ?
Alors, c'est presque, j'allais dire, par hasard, parce que, en fait, je n'étais pas du tout prédestiné à devenir journaliste, encore moins à travailler à la télévision. Je faisais des études à Toulouse. J'étais en études en aérospatial. Je rêvais de travailler chez Airbus ou je ne sais où. Mon rêve, c'était de dessiner des avions et de travailler dans un bureau d'études en aérospatial ou en aéronautique. Et puis, à l'époque, une émission qui n'existe plus depuis passait sur Antenne 2. À l'époque, c'était encore Antenne 2. Ça s'appelait La course autour du monde. C'était une émission qui envoyait des jeunes gens et des jeunes filles, des jeunes garçons et des jeunes filles autour du monde avec une caméra.
C'était Régnier qui faisait ça, non, je crois.
Didier l'a présenté, effectivement. C'était Roger Bourgeon qui était le producteur de cette émission.
C'est ça.
Et c'était la 5e ou 6e année. Et moi, ça faisait 2 ans que je voyais cette émission tous les dimanches à 18h. C'était une émission, c'était un peu la télé-réalité du journalisme à l'époque. C'était des jeunes gens qui n'avaient jamais fait quelquefois de reportage ou même de prise de vue et qui partaient comme ça, qu'on envoyait 6 mois autour du monde avec peu de moyens, mais avec ce qu'il fallait pour toutes les semaines ramener un reportage. Moi, j'avais déjà vécu très longtemps à l'étranger, parce que j'ai vécu 18 ans, les 18 premières années de ma vie, j'ai vécu en Afrique avec mes parents. Mmh. J'ai passé mon bac en Afrique. Et puis, donc, je faisais mes études supérieures à Toulouse, en aérospatiale. Et je voyais cette émission tous les dimanches. Et j'avais quand même envie, c'était la première fois, en fait, que je vivais en France, puisque je n'avais jamais vécu en France. Et le goût du voyage était toujours là, quoi. Et donc, cette émission m'a tellement intéressé que j'ai décidé, ma dernière année d'études, de me présenter en espérant être pris pour l'année suivante. C'est ce qui s'est passé. J'ai suivi les sélections.
Ouais.
Et en 81, donc, je suis parti faire ce tour du monde pour la course autour du monde, pour l'émission d'Antenne 2.
D'accord.
Et au retour, ben, voilà, j'avais attrapé le virus du journalisme, du reportage, de terrain, et j'ai commencé à piger à Antenne 2. Puis voilà, voilà comment je suis rentré dans le métier. Mais je ne me destinais pas du tout à ça.
Alors Roger Motte, dans vos pérégrinations, quel est le moment le plus fort que vous ayez connu ?
Alors ça, c'est une question qu'on pose souvent aux grands reporters, aux journalistes de terrain. Et souvent, moi, je fais toujours la même réponse. C'est impossible de dire quel est le moment le plus fort que j'ai vécu. Il y a beaucoup de moments très forts. Quasiment à chaque fois qu'on est dans une situation, qu'on part sur le terrain sur une actualité chaude, on vit des moments très forts. Mais effectivement, il y a eu des situations ou des cas, des missions qui ont été un peu plus fortes que d'autres. C'est vrai que, par exemple, dans les années 90, j'ai beaucoup couvert le conflit de Bosnie à Sarajevo. Mmh. Et j'y allais beaucoup. Je faisais des allers-retours. Je partais des fois un mois et demi à Sarajevo. Je revenais me reposer un peu à Paris, puis je retournais à Sarajevo. Et là, effectivement, quand on est plongé au cœur d'un conflit pareil, dans une ville assiégée comme l'était Sarajevo, on est avec ces gens-là, quoi, qui vivent cette guerre au quotidien. Alors, pour nous, ça paraît peut-être un peu facile, puisqu'on arrive, pour faire notre métier, on a des moyens, on a moins de soucis pour trouver à manger, de l'eau, de l'essence, etc. Mais malgré tout, quand même, on a aussi ces choses-là à régler, et on se sent proche de ces gens-là. Et là, effectivement, j'ai vécu dans ce conflit-là.
Et vous êtes au cœur de l'événement, là.
On est vraiment au cœur de l'événement. Ouais. C'est le cas de le dire. En plus, Sarajevo, c'est une petite ville. On était encerclés. Je dis « on » parce que j'avais l'impression, quand j'y étais, d'être un habitant de Sarajevo.
Ouais.
Et justement, c'est pour reparler, pour revenir sur ces extrêmes dont je parlais précédemment, entre ombre et lumière, par exemple, je me souviens, ça c'était un moment très fort où je me suis rendu compte de la force de vie que pouvaient avoir des gens face à la guerre, à la mort. Il y avait un carrefour où il y avait beaucoup de snipers à Sarajevo, des tireurs d'élite, qui tiraient sur les habitants de Sarajevo, des snipers serbes, il faut quand même le dire, qui tiraient, même si de l'autre côté aussi il y avait des snipers, mais qui tiraient sur des civils de Sarajevo.
Ouais.
Et il y avait un carrefour qui s'appelait le carrefour de la mort, qui était protégé par deux immeubles et qui plongeait ce jour-là le carrefour à moitié dans l'ombre et le reste était éclairé par une lumière d'hiver très franche avec un ciel très bleu. Et il y avait une vraie frontière, on revient à l'ombre et à la lumière, qui est quelque chose qui me touche beaucoup puisque je suis aussi un homme d'image.
Ouais.
Et il y avait cette vraie frontière entre ombre et lumière. Et là, tous les gens qui devaient traverser ce carrefour à pied, il y avait aussi quelques voitures qui passaient à fond de train pour éviter les snipers, mais beaucoup de gens passaient aussi à pied pour aller chercher de l'eau de l'autre côté ou aller voir quelqu'un de leur famille.
Mmh.
Et il y avait cette frontière entre ombre et lumière. Tant qu'on était dans l'ombre, on était protégé.
Mmh.
Dès qu'on passait à la lumière, on passait dans l'angle de tir, la fenêtre de tir du sniper qui était à 60 mètres et qui systématiquement allumait tous les gens qui passaient. Souvent, pour leur faire peur, plus que pour les tuer, même s'il y a eu malheureusement beaucoup de morts sur ce carrefour. Mmh. Mais de temps en temps, pour leur faire peur, ils leur tiraient juste au pied ou au-dessus de la tête.
Mmh.
Donc, et là, il y avait des gens qui avaient tout... Là, je me suis rendu compte, comme tout le monde, comme dans toutes les situations, les gens ont toutes les attitudes possibles dans l'âme d'un être humain. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui s'en fichaient, qui passaient sans se préoccuper du sniper, d'autres qui tergiversaient pendant des longues minutes, voire une ou deux heures avant de s'élancer, d'autres qui hésitaient et puis finalement qui partaient très vite. Il y avait tous ces sentiments humains très purs, tous ces comportements humains sans fioriture, sans tricherie. Ça, ce sont des moments forts dans le reportage, mais il y en a plein d'autres comme ça. Je vais revenir un peu sur ce carrefour parce que l'histoire est extraordinaire. Mais je l'ai revécu au Rwanda, par exemple, au moment du génocide, ou ailleurs. Les moments forts, si je dois donner qu'une réponse, c'est voir dans le regard des gens, dans l'attitude des gens, confrontés soit à la misère, à la guerre, ou à des choses très fortes, très puissantes, l'attitude qui nous montre, qui me l'est présentée, qui me montrait à moi-même, la force d'un être humain. Et sur ce carrefour, par exemple, il y a un homme qui est arrivé pratiquement, il marchait, quoi. Il n'avait aucune crainte de se faire tirer par le sniper. Et finalement, le sniper a tiré. Au milieu, en plein carrefour, quand l'homme était en pleine lumière, le sniper a tiré. Pour faire peur à cet homme qui arrivait tout doucement. La balle est passée vraiment à quelques centimètres de sa tête. Elle est allée percuter le mur en face. Cette personne, cet homme s'est arrêté, s'est retourné vers le sniper et lui a fait un doigt. C'est un peu vulgaire, mais
il
n'y a pas d'autre terme. Un doigt d'honneur. Il a remis les mains dans les poches. Il a continué sa marche tranquillement. Et là, je me suis dit, ça, c'est le courage de ces gens de Sarajevo qui résistent depuis... à l'époque, ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'ils résistaient. Voilà. Ça, ce sont des moments forts. De toute manière, ce sont toujours des moments liés... à un homme, à une femme, à un enfant. Il y a eu d'autres moments très forts pendant la révolution roumaine où j'ai débarqué pratiquement juste après la chute du régime de Ceausescu dans un orphelinat. À l'époque, c'était pas connu, mais maintenant on sait à quel point les gens étaient maltraités et ces enfants dans ces orphelinats, les enfants qui étaient beaucoup, la plupart d'eux étaient atteints de sida. Ils étaient dans une crasse innommable, ils vivaient vraiment une situation terrible. Et là, il y a un petit qui s'est approché de moi à 4 pattes aussi. C'est une des rares fois dans mon métier, ça m'est arrivé 2 fois, où j'ai arrêté de travailler, où j'ai posé ma caméra, j'ai décidé de ne plus filmer et qu'il fallait que je montre, que je donne autre chose à cet enfant, que je lui donne quelque chose et pas simplement que je lui prenne une image. Ça, après, ça... plusieurs fois, c'est revenu en moi.
D'accord.
Bien, est-ce que, Roger Motte, est-ce que la peur vous a quelquefois habité et quelles en étaient les circonstances? Est-ce que vous avez vraiment eu peur par moment dans vos reportages, par exemple en Serbie?
Oui, j'ai eu plusieurs fois peur, bien sûr. J'ai eu peur, effectivement, en Serbie, en Bosnie, pendant la guerre de Sarajevo, où quelquefois on a été volontairement allumé. Ouais. Notre voiture, heureusement, était... Les premières années, elles n'étaient pas blindées. Mais puis ensuite, on avait une voiture blindée. Donc, ouais. Des fois, on se faisait shooter. Et on avait des impacts sur la voiture. Sous les bombardements, effectivement, j'ai eu peur. Il y a eu plein d'autres situations où j'ai eu peur. La peur doit faire partie de ce métier. Il faut quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas peur dans ce métier ou qui va sur le terrain sans avoir peur. Il est inconscient. Il prend beaucoup de risques pour lui et pour les gens qui l'accompagnent. Ouais. Il faut avoir peur. Il faut réfléchir. Il faut regarder comment les gens qui sont là depuis longtemps et vivent la situation, comment ils réagissent. Parce que si on n'a pas peur, on n'a aucune chance de s'en sortir. Quelquefois, la situation est quand on est sous un bombardement ou sous des tirs de gens qui sont en face, il faut avoir peur pour savoir comment réagir. Moi, j'ai eu souvent peur. J'ai eu peur à la chute de Bagdad il y a 2 ans, où j'ai été à l'époque, au moment de la chute du Bagdad. Je parle là de la dernière fois quand Saddam et Hussein est tombé. En passant le coin d'un mur, je suivais des combattants de Saddam qui allaient au front vers des Américains. Et en passant un mur, je me suis retrouvé face à quelques combattants qui ont pris peur eux-mêmes parce que j'ai surgi dans leur dos. Ils ont tous retourné les armes vers moi. Mmh. Aucun n'a tiré. Mais effectivement, il y a 1 ou 2 secondes où on se dit, on se dit pas d'ailleurs, c'est plus tard, mais où on a peur. Ouais. Après, on se dit, oulala, s'il avait tiré, je n'en serais jamais sorti.
Mais donc c'est une peur rétrospective, mais sur le moment,
ce sont des peurs rétrospectives très fortes, mais sur le moment, on est dans l'action. Ouais. Quelquefois, souvent, on cherche d'abord à se protéger, à se tirer de ce mauvais pas, à sortir de la zone où on est. Donc là, ce sont des peurs qui peuvent monter, qui peuvent prendre une ampleur très grande parce qu'on n'en sort pas comme ça de ces situations-là. Il faut... Non, des peurs... En Afrique, j'ai eu souvent peur parce que les foules en Afrique, quand elles commencent à partir en vrille, c'est très compliqué, c'est très, très volatile. Et là, on est confronté à des centaines, voire des milliers de gens qui... D'un coup, on n'a qu'un objectif, c'est le journaliste avec sa caméra. Parce qu'avec une caméra, on est très visible, on est beaucoup plus visible, un peu provocateur, évidemment.
Ouais, c'est ça.
Donc, en Afrique, j'ai eu souvent peur parce que je ne savais pas justement comment réagir face à la foule. Et la foule, c'est terrible. Hein, là.
Alors, Roger Motte, on a bien compris... le sens de votre métier, mais vous sentez-vous utile à la société quand vous lui présentez en tant que témoin ses plus vilains défauts ou peut-être aussi ses plus belles qualités? Comment vous réagissez à ça?
Ça, c'est une grande question. Ça, c'est une question très intéressante que j'aime bien aborder avec des gens qui ne connaissent pas le métier, qui quelquefois, au cours d'un repas entre copains ou de famille, veulent m'aborder là-dessus. On a souvent une mauvaise image de gens un peu charognards qui vont vers le spectaculaire, etc. Et je leur explique, c'est un métier où on se pose sans arrêt les questions. En tout cas, les journalistes honnêtes, les reporters honnêtes, sans arrêt, on se demande, mais à quoi je sers? Est-ce que c'est utile ce que je fais? Est-ce que de faire cette image terrible, cette information que je donne aux gens qui vont regarder ça à 20h ou dans un magazine, assis à table ou en train de siroter un verre, qu'est-ce qu'ils vont en tirer? Qu'est-ce qu'ils vont en garder? Est-ce que ça va les faire réagir? On se pose sans arrêt cette question. Beaucoup de gens pensent qu'on fait ce métier en se fichant de ça, mais pas du tout. On a sans arrêt ce questionnement sur notre déontologie et sur l'information qui peut apporter... une prise de conscience ou, au contraire, faire du mal parce qu'on ne montre peut-être que des choses qui, finalement, sont tellement abjectes qu'au bout d'un moment, les gens n'ont plus envie de voir. Donc, est-ce qu'on ne fait pas aussi, quelquefois, est-ce qu'on ne va pas vers est-ce qu'on ne pousse pas les gens à ne plus s'intéresser à l'information? Beaucoup de gens nous disent, moi, je ne regarde plus le journal parce qu'il y a tellement de choses horribles, il y a tellement de mauvaises informations, de mauvaises nouvelles. Mais non, il ne faut pas cacher la poussière sous le tapis. Il faut montrer les choses. Moi, j'ai toujours été partisan de faire des images très crues, très fortes. Mais est-ce qu'elles servent? Est-ce qu'elles sont utiles? Alors ça, c'est une question vraiment que je me suis posée, mais sans arrêt dans mon métier. J'ai eu quelquefois la réponse, parce que quelquefois, des gens, après des semaines ou quelques jours ou quelques semaines, ou même bien plus, quelques mois après, me disaient « j'ai vu un tel reportage, telle image, j'ai pris conscience de ceci, j'ai eu envie de m'investir, ou j'ai eu envie de lire d'autres informations sur le sujet ». Donc, et puis c'est la démocratie, c'est ça, c'est quand même aussi, il y a tellement de pays, quand on fait ce métier, on voyage beaucoup, on va dans beaucoup de pays où les gens n'ont pas accès à l'information. C'est absolument incroyable de voir à quel point nous, on vit dans des pays, quand je dis nous, c'est les Français, mais il y a beaucoup de pays en Occident et ailleurs qui ont cette démocratie de la presse, où la presse est libre, et c'est formidable quoi, de pouvoir faire ça. Alors effectivement, c'est assez terrible des fois ce qu'on leur montre.
Ouais.
Mais est-ce que ça sert?
Ouais.
Je crois vraiment que ça sert. Je crois vraiment que ça sert. Moi, au Rwanda, je dis pas qu'il y aura plus de. Évidemment, mais c'est une vraie question. Est-ce que les génocides à la machette vont s'arrêter en Afrique parce qu'il y a eu le Rwanda et qu'on a montré le pire? Est-ce que je ne sais pas. Moi, je sais qu'il y a eu quelques-unes de mes images qui ont fait réfléchir des gens. S'il y a une personne moi, c'est surtout les enfants, les adolescents que j'aimerais toucher, j'ai envie de toucher le plus.
Ouais.
Si j'arrive à toucher l'esprit d'un enfant, alors il y a des images qu'on ne peut pas voir à tout âge, mais si j'arrive à toucher l'esprit d'un enfant, un adolescent qui n'a pas encore fait ses études et qui va peut-être un jour faire un métier, si ça peut le faire réfléchir, je crois que ce métier n'est pas inutile.
Alors, Roger Motte, pour compléter un petit peu la question que je viens de vous poser, on fait souvent le procès aux médias d'exploiter les événements en appuyant sur la craie pendant le temps que dure l'émotion, l'événement, puis d'oublier quelque peu cet événement lorsque les clameurs se sont tues. En d'autres termes, est-ce qu'on en fait trop pendant et pas assez après? Quel est votre point de vue
là-dessus? Je suis plutôt assez d'accord avec ça. Je trouve qu'aujourd'hui, on va sur l'événement dès qu'il arrive et on a tendance à l'oublier très vite dès qu'il y a un autre événement qui le remplace.
Ouais.
Je suis plutôt d'accord avec ça.
Ouais.
C'est un point noir, mais ça ne date pas depuis très longtemps. Ça date, en tout cas en télévision, effectivement à cause de la concurrence, à cause de ce métier qui doit aller de plus en plus vite, où on doit être le premier à donner une information, à montrer l'événement, on a tendance à aller un peu trop vite. Et en plus, à oublier un peu l'événement quand, encore une fois, un autre le remplace. Je suis plutôt d'accord avec ça. En même temps, ça n'empêche pas les gens. Nous, on est là aussi pour apporter une première information. Il faut que les gens aussi aient envie, derrière, d'aller chercher d'autres informations ailleurs. C'est sûr qu'un journal télévisé, c'est une demi-page d'un quotidien, par exemple. C'est une demi-page du Monde. On ne peut pas donner, dans un sujet d'une minute trente, deux minutes en télévision, toutes les informations qu'on donne sur une page du Monde. Donc ça ne suffit pas. Si les gens veulent s'informer qu'en regardant la télévision, ils ne pourront pas être complètement informés. Il faut qu'ils aillent vers d'autres médias pour s'informer. Ça ne veut pas dire qu'à la télévision, on ne donne pas les informations justes, mais ça ne suffit pas. Et quelquefois, on va trop vite. Il y a eu des erreurs. Il faut balayer devant notre porte. Il faut se rendre compte que quelquefois, on fait des erreurs. Après, c'est la déontologie de chacun d'entre nous. Mais... Oui, ça recoupe la question. Est-ce que ça sert à quelque chose? Et est-ce que finalement, une fois que c'est fini, on passe à autre chose? Donc ça dénote peut-être l'idée que le premier événement n'a aucune importance puisqu'on l'a traité puis on ne le traite plus. C'est pas faux. C'est pour ça qu'il y a des magazines aussi. Et pour compléter un peu,
voilà.
Je parle des magazines télévisés. C'est pour ça que moi, j'ai quitté le journal pour passer au magazine.
Ouais.
Après avoir été correspondant 2 ans en Afrique, quand je suis revenu d'Afrique, j'ai décidé d'aller au magazine pour essayer de travailler effectivement sur des sujets plus en longueur, avec des préparations plus longues et avec une longueur de diffusion plus longue pour essayer de rentrer un peu plus dans les sujets.
Puis une dimension analytique peut-être aussi.
Oui, absolument. Ouais. Une analyse de l'événement un peu plus important.
D'accord.
Alors, Roger Motte, je vous propose une pause musicale pour le moment, et puis reprendrons notre rencontre tout de suite après.
Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blinded and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer. When I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
Avec.
Alors vous êtes toujours à l'écoute de RVE et vous avez bien raison parce que cette émission est passionnante. Je suis toujours en compagnie de Roger Motte qui nous a éclairé un petit peu sur son boulot, quoi, le boulot qu'il fait. Alors Roger Motte, on reprend un petit peu. Comment Roger Motte, vous comportez-vous, par exemple, lorsque vous étiez en Serbie, au Rwanda, durant des événements très importants, suivez-vous à la lettre les instructions de votre rédac-chef, hein, qui est à Paris, lui, et qui vous envoie au feu, ou avez-vous la possibilité de prendre des initiatives personnelles?
Alors, ça, c'est une... Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais... Ça, c'est une fausse idée que beaucoup de gens ont. Les gens ont l'impression qu'on est, quand on est sur le terrain à 5000 km ou à 200 km, on est tout le temps au téléphone avec le rédac chef qui nous dit où aller, quoi faire, quoi filmer, comment monter, etc. Mais c'est totalement faux. Moi, je témoigne aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas. Je fais sur le terrain, je travaille comme je le sens. J'ai toujours eu des rédacteurs en chef qui m'ont fait confiance, des vrais professionnels, et je leur explique ce que je vois et je leur montre avec le plus d'objectivité possible ce que je vois. Mais je ne suis pas... Après, il y a des angles de sujet, effectivement. Ouais. On peut nous dire, on aimerait pour le 13h ou pour le 20h un sujet sous tel angle. Ouais. On en discute. Nous, on a des informations sur le terrain pour dire, effectivement, c'est un bon angle ou non, on fait fausse route, c'est pas un sujet possible parce que ça se passe pas comme ça. C'est peut-être une dépêche qui le dit, mais dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Mais j'ai jamais été, j'allais dire... aux commandes d'un rédac chef qui me dit quoi faire. Non, non, je sur le terrain, surtout sur les situations compliquées, ils nous font confiance. On leur propose, la plupart du temps, c'est les gens de terrain qui proposent les sujets. C'est pas toujours comme ça. Je sais pas, dans d'autres rédactions, moi, à Antenne 2 puis à France 2, j'ai toujours eu beaucoup de liberté. J'ai toujours travaillé avec une extrême liberté. J'ai jamais fait un reportage de commande, ni une image de commande. S'il y a une image que j'ai pas envie de filmer, je ne la filme pas.
Mais vous savez, vous êtes persuadé quand même que c'est légitime qu'on se pose cette question, enfin que le grand public se pose cette question.
Bien
parce
sûr.
Que quand on envoie une équipe sur le terrain, certainement que dans la tête du rédac chef, il y a un objectif.
Oui, donc, bien sûr.
Donc, et après, c'est vous qui prenez les initiatives
sûr,
sur le terrain, en fonction de...
Oui. En même temps, pour être totalement honnête, je pense que ça a aussi un peu changé, ce métier, là-dessus. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus le cas qu'avant, où les rédacs-chefs ont des désidératas un peu plus appuyés.
Ouais,
c'est
ouais.
peut-être plus le cas que quand j'ai commencé ce métier au début des années 80. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est sûrement le cas avec des jeunes reporters qui sont plus influençables. Moi, je veux tirer sur personne, mais j'ai toujours estimé, j'ai toujours travaillé comme ça. Si mon rédac chef ou mes chefs m'appellent en me disant « on aimerait ceci, on aimerait cet angle-là, on aimerait voir cela », et que je lui explique une fois, deux fois, trois fois que ce n'est pas possible ou que ça ne se passe pas comme ça, et que je ne ferai pas ce qu'ils disent parce que je ne vais pas fabriquer l'information. L'information est autre.
Ouais.
Elle n'est pas celle qu'ils pensent.
Ouais.
Souvent, c'est vrai, loin, à Paris, dans la rédaction, on peut imaginer que sur le terrain, la situation est comme si, et finalement, elle n'est pas du tout comme si. Elle est autrement.
Ouais.
Et il faut qu'ils fassent confiance aux gens de terrain. Moi, on m'a toujours fait confiance. Je comprends qu'on se pose la question. Je comprends que les gens... J'entends bien les gens. Souvent, ils se posent la question. On le voit aujourd'hui avec les événements à Paris, avec les jeunes. Beaucoup ont du mal à laisser les journalistes travailler dans les AG, etc., dans les facs, dans les lycées. Il faut presque passer par un bureau politique pour qu'ils acceptent qu'on vienne filmer leur AG, etc. Ils se méfient. On voit bien qu'ils sont méfiants. Et qui se disent, voilà, vous allez faire une demi-heure d'image, et puis finalement, le rédacteur en chef va en garder une minute. Ils ne connaissent pas aussi les ficelles du métier. Après, ça dépend de l'honnêteté de chacun. Je ne dis pas que dans ce métier, il n'y a pas des gens malhonnêtes. Mais encore une fois, moi, et je connais beaucoup de confrères étrangers, ils n'ont pas cette liberté. Moi, j'ai toujours eu le sentiment de cette liberté de travail dans ma profession. Mais je comprends qu'ils se posent la question, parce qu'aujourd'hui, on est submergé d'images, submergé de sujets, etc. Je comprends qu'ils soient un peu méfiants.
Bien. On parlait tout à l'heure d'objectivité. Hein. Alors, avez-vous éprouvé le sentiment, c'est une question un petit peu saugrenue qui risque de vous gêner un tout petit peu, avez-vous éprouvé donc le sentiment de vouloir combattre aux côtés de l'un ou l'autre camp? Et comment faites-vous être complètement objectif?
C'est une question qui ne me gêne pas du tout. C'est une question qui ne me gêne pas du tout. Je vais être encore une fois très honnête. Oui. Ça m'est arrivé une fois quand j'étais encore en Bosnie. J'étais tellement au cœur de la situation des habitants de Sarajevo. Je me sentais tellement proche d'eux. Mmh. D'abord, on essayait de les aider au maximum, les gens de Sarajevo. On avait tous, chaque journaliste avait une, deux, trois, quatre familles avec qui ils avaient des liens très forts parce que la fille servait d'interprète, le fils servait de chauffeur ou je ne sais quoi. Mmh. Donc quand on passait les lignes, les fronts d'un côté ou de l'autre, on allait chercher de la nourriture pour nous, de l'essence pour nous, mais on leur ramenait aussi de l'essence et de la nourriture pour eux. Quand on allait faire les pleins de réservoirs d'eau, on amenait des... Donc on se sentait très proche d'eux et ça m'est quelquefois... arriver de me dire, certains soirs, certaines nuits, certains matins, me dire, finalement, je serais peut-être plus utile pour eux de laisser tomber ce métier et de prendre une arme et de combattre à leur côté. Évidemment, c'est une idée, et je connais beaucoup de journalistes qui l'ont eu, cette pensée-là. Évidemment, on ne l'a jamais fait. Il y en a un ou deux qui l'ont fait. Il y en a un ou deux qui ont laissé tomber le stylo ou l'appareil photo pour devenir des mercenaires, avec plus ou moins de réussite, si on peut parler comme ça, pour eux et pour les gens qu'ils essayaient d'aider. Mais ça amène effectivement à la question de l'objectivité. Si je suis si proche, si je me sens si proche d'eux, de ces gens de Sarajevo, ces Bosniaques, est-ce que je vais être objectif quand je vais faire mon métier de journaliste? Est-ce que je vais rendre compte objectivement de ce que vivent les Serbes de l'autre côté, leur ennemi? Et ça, c'est un exemple très précis, mais... souvent, dans d'autres situations, c'est un sentiment que j'ai eu. Justement, c'est la difficulté et la beauté de ce métier. Comment faire quand on, en plus, comme moi, on fait de l'image, on filme avec une caméra. Et quand on filme avec une caméra, quand on fait une photo, on est subjectif, par définition, puisque c'est nous, c'est moi qui choisis le cadre, l'angle, ma position, ce que je vais filmer. Est-ce que je fais un gros plan du visage de cette femme qui pleure ou un plan large où on voit le soldat qui la met en joue à côté ou... Bon, tout ça est subjectif. Comment faire pour, dans cette subjectivité, apporter une information objective? C'est toute la difficulté et même, j'ose dire, la beauté de ce métier. Si on est honnête dans ce métier, comment faire pour arriver toujours se mettre à la place de la personne qui va regarder le reportage et qui va comprendre l'information que je vais lui donner, la situation réelle du terrain, à travers ma subjectivité. C'est-à-dire qu'à travers mon choix d'image, de cadrage, d'angle, etc., il faut que j'arrive à faire comprendre à la personne qui est dans son fauteuil, devant sa télévision, la situation sur le terrain. Eh bien oui, c'est possible. On peut être subjectif en étant photographe, caméraman, journaliste de presse écrite, et à travers les mots, l'image, faire passer de l'objectivité. C'est toute la difficulté, mais la force de ce métier. Ça s'apprend, ça s'apprend dans les écoles et ça s'apprend sur le terrain. Et c'est possible, je reste persuadé que c'est possible, mais c'est vrai que c'est une question permanente. Après, on peut tomber très facilement si on ne fait pas attention, c'est pour ça que j'en reviens aussi à ça. On se pose sans arrêt la question de notre étiquette de métier, notre déontologie, en permanence, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et être objectif, eh bien, ça passe par notre subjectivité, mais c'est possible. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve. La preuve, c'est que elle vient des témoignages que j'ai de gens qui me disent « J'ai vu telle image que tu as faite. » J'ai compris la situation enfin. Et c'est très difficile. Un des premiers conflits que j'ai couverts, la guerre de Bosnie, c'était déjà compliqué pour les gens, alors qu'il y avait, parce qu'il y avait beaucoup de factions entre les Bosniaques musulmans, les Serbes orthodoxes. Il y avait le premier conflit que j'ai couvert, c'est la guerre du Liban à Beyrouth. Et là, c'était extrêmement compliqué. Il y avait entre les factions chrétiennes, musulmanes, les sous-factions, c'était assez compliqué de faire comprendre aux gens qui étaient qui se battait contre qui. Eh bien oui, c'est difficile, mais dans ce métier, il faut apprendre à expliquer aux gens ce qui se passe. Et c'est une question permanente. Hein. Il ne faut pas croire qu'on ne se pose jamais cette question. Mais moi, je me la pose à chaque fois que j'enclenche ma caméra. Est-ce que cette image-là... Après, il y a le montage. C'est vrai qu'il y a l'image. Et puis, cette image, est-ce qu'on la monte ? Est-ce qu'on ne la monte pas ? C'est encore une question qui perdure. Une fois qu'on est au montage, quelquefois, on a 10 minutes pour monter un sujet. Il faut que les gens se rendent compte aussi de ça. C'est qu'on travaille pendant une journée entière. Et puis, une heure avant la diffusion, on diffuse avec des satellites. À l'époque, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, mais c'était à peu près les mêmes quand même. C'était simplement plus long à mettre en œuvre. Mais quelquefois, on a 10 minutes, un quart d'heure pour monter un sujet et le diffuser pour que ça arrive dans le journal à temps. Et c'est difficile. Il faut, pour garder son objectivité, pour ne pas tomber dans la facilité... Mais oui, mais c'est un métier, ça se fait pas, on le fait pas n'importe comment. Vraiment, je voudrais expliquer aux gens, à nos auditeurs, qu'ils comprennent ça. On se pose sans arrêt la question.
Bien. Alors, vous n'avez encore jamais été prise en otage, et nous en sommes tous heureux, hein. Mais y avez-vous déjà pensé, une seule fois ? Est-ce que vous avez pensé un jour que vous risquiez d'être pris en otage, ou bien alors est-ce que c'est quelque chose qui vous vous passe par-dessus la tête, quoi?
Sur le terrain, on n'y pense jamais. On y pense quand on a un camarade, quand on est de retour à Paris et qu'on regarde justement le journal télévisé, qu'on apprend ou qu'on lit on allume la radio et qu'on apprend qu'un journaliste que l'on connaît très bien, parce qu'on... Vous savez, c'est un métier comme ça où c'est un petit...
C'est un microcosme.
C'est un microcosme, mais on se retrouve toujours les mêmes, sur les mêmes événements, etc. On apprend qu'un tel ou un tel s'est fait attraper et otage. On y pense à ce moment-là. Sur le terrain, on n'y pense pas. Et quand on y pense, de retour, quand on apprend la nouvelle... Effectivement, on se dit comment je réagirais, qu'est-ce que je ferais, est-ce que je m'y suis préparé. Et puis finalement, alors c'est quand même pas très, c'est pas très vieux, hein, ces prises d'otages. Hein, ça se voit beaucoup maintenant au Moyen-Orient, mais il n'y a pas eu beaucoup de situations dans les conflits.
Il y a eu
Beyrouth, effectivement, quand j'ai commencé, moi, je vous dis, le premier conflit que j'ai couvert, c'est Beyrouth. Il y avait effectivement déjà là des otages. Mais on y pense sans s'y préparer. On a toujours l'impression, c'est comme la blessure ou la mort ou la balle perdue ou la balle dans la tête d'un sniper.
On y pense après, beaucoup
de camarades qui ont été blessés ou tués. Moi, je touche du bois. Je n'ai jamais été même blessé par balle. Mais on y pense toujours après. On y pense après.
D'accord.
Sinon, je crois que si vraiment on y pense trop, on ne retourne pas sur le terrain.
Ouais, bien sûr. Bien, vous avez alors un épisode de votre métier. Vous avez été expulsé de Djibouti à la suite d'un reportage soi-disant tendancieux et cherchant à ternir l'image du pays. Comment avez-vous vécu cela ? Comment on vit ça ? Vous êtes expulsé. On vous expulse du pays. Comment vous le vivez, ça ?
C'était pas ma première expulsion. J'avais déjà été expulsé d'Allemagne de l'Est à une époque où... Enfin, pas en Allemagne de l'Est, en Pologne, à l'époque où j'étais rentré clandestinement en Pologne pour faire un sujet sur Solidarność. Et j'étais rentré clandestinement en Pologne et dans un chantier naval où Solidarność était en pleine crise. Et je m'étais fait cintrer sur la route par des policiers qui m'avaient expulsé vers l'Allemagne de l'Est. À l'époque, l'Allemagne de l'Est existait encore, c'était avant la chute du mur. Et j'avais été obligé de traverser l'Allemagne de l'Est tout seul. Ça s'était passé assez bien. À Djibouti, ça avait été différent. À Djibouti, effectivement, on travaillait sur un sujet qui les gênait beaucoup. C'est quand même un pays où on ne peut pas dire que la démocratie soit vraiment en place. Et on enquêtait un peu sur cette affaire de ce magistrat français qui avait été retrouvé mort. Enfin bref, ça plaisait finalement ni aux autorités de Djibouti, ni aux Français qui ont, comme vous le savez, une base militaire depuis très longtemps.
Ni à l'opposition, d'ailleurs.
Et ni à l'opposition, ça ouais. plaisait à personne. Et ouais. on avait été un après-midi de retour à l'hôtel après avoir tourné dans la matinée. Des policiers nous attendaient en civil, avaient récupéré nos passeports, nous avaient consignés à l'hôtel.
Et vous avez piqué le matériel en plus.
Nous avaient pris le matériel.
Tout au moins les cassettes.
Oui. Hein? Alors, ils avaient pris une partie des cassettes. Parce qu'on sentait bien qu'on était un peu suivi, un peu surveillé.
Ouais.
Donc j'avais fait en sorte de cacher certaines images et certaines cassettes.
Ouais.
Ça, c'est assez amusant. Je suis toujours étonné moi-même. Ça m'est arrivé dans d'autres situations. En Union soviétique, à l'époque, encore une fois, avant la chute du mur, où j'étais rentré, pas clandestinement, mais avec un faux prétexte pour faire un sujet. Et finalement, j'avais tourné autre chose. Et les cassettes, j'étais arrivé à les passer, à les sortir du pays. Et à chaque fois que ça m'est arrivé quelques fois, dont à Djibouti. Et on se dit toujours, bon, ils sont quand même pas idiots à ce point-là. Ils vont quand même ils vont quand même nous fouiller assez bien pour. Ça, en Iran aussi, ça m'est arrivé, ou ailleurs. Puis finalement, peut-être qu'on est plus malin qu'eux, mais j'en doute. Je ne sais pas, c'est aussi peut-être l'expérience du métier. Et même à Djibouti, j'étais arrivé effectivement à donner quelques cassettes qui m'intéressaient moyennement et à garder celles que je voulais. Et ils n'y avaient vu que du feu. Donc, voilà, comment on vit ça on ne sait jamais trop comment ça se passe, mais comment ça va se passer dans les heures qui suivent. Mais bon, on sait bien, en plus, à Djibouti, il y a une présence militaire française très forte. Effectivement, on n'a plus de passeport, on n'a plus de matériel, mais on se doute bien qu'ils ne vont pas nous garder des semaines et des semaines. Et finalement, on avait aussi quelques
D'autant que vous aviez été très appuyé par votre société, France Télévisions, qui avait, qui avait pris une position très, très ferme,
je
crois.
Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire. On a une société, une rédaction qui est toujours très solidaire dans ces situations-là. Ça s'est vu avec des otages que l'on a eus au Liban ou en Indonésie. On a toujours la direction, la présidence et la rédaction qui est derrière nous et qui appuie tout de suite. Bon, on l'a vu aussi avec des gens qui ont été pris en otage dans la presse écrite, Florence, Aubenas ou d'autres. C'est aussi, on est dans un pays où la presse peut avoir quand même un certain poids vers ces régimes.
Et c'est tant mieux. Bien, nous allons observer encore une pause et puis on terminera cette émission parce que ça va très vite.
Oui, ça va très très vite.
Les premières lueurs, je sombre. Tout bientôt.
Rencontre avec.
Alors Roger Motte, pour mieux cerner votre personnalité, nous allons procéder à des questions-réponses très, très rapides.
Hein, d'accord.
Pour connaître un petit peu.
Ah, très bien.
Alors Tintin ou Lucky Luke?
Tintin.
Ouais, en tant que reporter.
Bah, oui. Surtout ça. Que j'adore, j'ai un chien qui ressemble beaucoup à Milou.
Ah bon,
ça va très bien Tintin.
Justement, ça va très bien avec la deuxième question, chien ou chat?
Chien, toujours. C'est mon signe, j'ai toujours aimé les chiens, j'en ai toujours eu.
D'accord. Ski alpin ou ski nordique?
Alors, ni l'un ni l'autre, parce que comme j'ai vécu pendant 18 ans en Afrique, j'ai vu mes premières neiges, si je peux dire, très très tard, et j'ai jamais su skier.
Bon. Petit vin de pays ou grand cru classé?
Ah, petit vin de pays, je crois.
C'est vrai?
Oui, oui.
Bien. Métro ou auto?
Pour être honnête, il faut que je dise malheureusement auto.
Bien. Mais c'est une réponse. Hein. Oui. Pêche ou chasse?
Alors, ni l'un ni l'autre. Mon père a été chasseur. Je comprends les chasseurs. Mais ça m'est c'est en dehors ça m'est impossible de lever un fusil, peut-être parce que j'en ai vu trop lever vers des hommes. Mais ça m'est impossible de lever un fusil vers un animal. Tuer un animal, toucher à la nature me paraît quelque chose d'insupportable.
Bien. Finkielkraut ou BHL, Bernard-Henri Lévy?
Ah, j'aime beaucoup BHL.
Ouais.
Oui.
Pourquoi?
Il me fascine. D'abord parce qu'il est tellement attaqué. Moi, j'aime beaucoup tous les gens qui sont... D'abord, j'aime l'intelligence. Je le trouve intelligent. Mmh. Mais Finkielkraut aussi, bien sûr, je le trouve intelligent. Tous les gens qui disent des choses intelligentes me fascinent. J'aimerais avoir cette intelligence-là. Et en plus, lui, il a quelque chose de plus, BHL, c'est qu'il est tout le temps critiqué, attaqué, etc. Et j'aime bien prendre parti pour les gens qui sont un peu tout le temps comme ça, dans la ligne de mire.
D'accord. Roger Couder ou Charles Bietri?
Roger Couder, c'est Roger Couder, c'est toute une époque. C'est le rugby que mon père a beaucoup pratiqué. Moi, j'ai jamais eu assez de... J'ai jamais eu le physique pour faire du rugby, j'ai plutôt été football. Mais non, Roger Couder, j'adorais l'écouter quand je venais en vacances, quand je vivais en Afrique, que j'étais enfant, que je venais en vacances l'été, j'adorais écouter Roger Couder.
Bien. Picasso ou Van Gogh?
Alors là, ça touche vraiment un domaine qui m'est très cher, la peinture, parce que j'aime beaucoup dessiner et peindre. Et j'adore ces deux peintres. Picasso, c'est le peintre pour moi qui a tout essayé, tout réussi, qui a une vie de peintre incroyable sur des décennies. Et Picasso aussi me touche en même temps beaucoup parce que c'est quelqu'un de meurtri, c'est quelqu'un qui, dans sa peinture, montre à quel point il était blessé. Et tous les deux me touchent beaucoup. Picasso, sûrement, parce que pour sa dextérité, c'est pas le terme, pour tout ce qu'il a représenté pour la peinture. Il a tout inventé en peinture. Mmh. Et Van Gogh pour ses blessures et la force de sa peinture.
Alors, une dernière question. Sophie Marceau ou le mime Marceau?
Évidemment, Sophie Marceau. les seins de Marceau. Sophie Marceau, bien sûr, que j'ai jamais rencontrée. Ça m'est arrivé aussi dans mes reportages de faire des sujets sur des comédiennes. Hein? Très, très belles. J'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Sophie Marceau. Et puis, Sophie Marceau, encore une fois, elle m'a touché parce qu'après sa bêtise à Cannes, où elle avait été en dessous de tout, où tout le monde lui était tombé dessus, elle était devenue touchante. Et non seulement je la trouve belle, mais maintenant elle me touche. Depuis Cannes, elle me touche.
Donc on aura compris que vous êtes quand même le défenseur de la veuve et de l'orphelin, quand même. Un petit peu.
Un petit peu, mais ouais, ce serait prétentieux de le dire. Je n'ai pas cette prétention-là. J'estime qu'on a chacun nos. On fait chacun des erreurs. Voilà, il faut pas donner de leçons. Il faut pas. Et dans ce métier, c'est pareil. Il faut pas essayer de donner des leçons. Il faut essayer de donner des clés, des informations qui donnent des clés. Et puis voilà, il faut pas, j'aime pas les gens prétentieux qui essayent de dire aux autres ce qu'il faut faire.
Bien. Alors, cette émission touche à sa fin, ça va vite, ça va très très vite. Hein.
Oui.
Alors, nous arrivons au terme donc de cette émission et vous ne couperez pas à la fameuse question à la con. Vous savez pourquoi ?
Non.
Parce que
non, je vais le savoir très vite.
Chaque fois qu'un intervieweur fait son métier, on lui dit à la fin, mais pourquoi t'as posé cette question à la con ?
Donc là, vous avez une question à la con.
Et alors, oui, parce que nos auditeurs l'attendent, parce qu'ils sont habitués à ça. Alors, la voici. S'il vous arrivait d'être suivi dans la rue, resteriez-vous indifférent et continueriez comme si de rien n'était, ou bien alors, vous retourneriez-vous pour demander une explication à la personne qui vous suit ?
Alors, évidemment, ça dépend de qui me suit. Si c'est une jeune femme très, très, très belle, vraisemblablement, je me retournerai assez vite. Non, je pense que de toute manière, je me retournerai. D'abord, j'aime pas être suivi. Ça m'est arrivé dans mon métier d'être suivi et je déteste ça. Non, je me retournerai très vite, mais c'est pas vraiment une question à la con, hein, c'est une question que
c'est gentil.
C'est une question qu'on pourrait vraiment la réponse pourrait vraiment être développée. C'est une question intéressante.
Merci en tout cas, Roger Motte. Je pense qu'on s'est régalé et que nos auditeurs se sont régalés avec vous, avec cette rencontre avec. Et puis la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous. Nous serons en compagnie de Jean Paulhuchon. Merci Roger Motte.
Merci.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Rencontre avec.
Uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes I'd find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing, but I may as well try and catch the wind. All my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind.
Welcome to Generation Hits.
Tous les samedis.
De 16h
à 19h.
C'est Génération Hit. Avec Adeline Line et Sullivan.
Génération Hit, deuxième saison.
Plus d'infos,
plus de hits,
plus de people
et encore plus long.
Génération Hit, deuxième saison.
RVE, positivement différent.